Gilles Bogaert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Pernod Ricard. On va parler avec vous du premier semestre. Pour vous, la croissance était au rendez-vous sur ce premier semestre pour Pernod Ricard?
Oui, c'était un très bon premier semestre. Une croissance organique des ventes de l'ordre de 5%, de nos résultats opérationnels de l'ordre de 6%, tirés par l'ensemble des catégories du portefeuille, tirés également par l'ensemble des régions, avec notamment une accélération en Asie, en Chine, en Inde, et également dans le Global Travel Retail. Donc un très bon premier semestre qui nous permet d'ailleurs de relever notre objectif annuel d'une croissance interne de résultats opérationnels courants de entre 4 et 6%, alors qu'avant nous étions entre 3 et 5%.
On peut en parler de l'Asie avec le décalage du nouvel an, mais qui n'a pas empêché la croissance des ventes pour vous.
Oui, donc notamment en Chine, donc les ventes sont à 8% malgré l'impact défavorable effectivement du décalage du Nouvel An chinois. L'ensemble du portefeuille est très dynamique. Martell a une croissance de l'ordre de 5%. Chivas est revenu avec une belle croissance à la faveur de la nouvelle campagne marketing, de la nouvelle plateforme d'activation autour de la NBA. Et l'ensemble du portefeuille de marques premium, notamment Absolut, Ballantine's Finest, Jacob's Creek, a renoué aussi avec une belle croissance à deux chiffres, favorisé par la création d'une division marketing et commerciale dédiée à ces marques. Donc on a une croissance qui s'accélère et qui en même temps se diversifie en Chine.
L'Asie, c'est aussi bien entendu l'Inde, avec là ce que vous appelez les marques stratégiques locales. Le marché indien était dynamique.
Oui, on est revenu sur une croissance de 9% au premier semestre. Il est vrai favorisé par une base de comparaison plus faible, puisque l'année dernière, le premier semestre avait été impacté par la démonétisation. Cette croissance vient notamment de nos whiskies indiens, Blenders Pride, Royal Stag et Imperial Blue, mais également des marques importées. Donc nous sommes confiants sur notre capacité à poursuivre une belle croissance en Inde, tout en restant prudents sur l'environnement réglementaire qui reste incertain et volatile.
Qu'est-ce qu'on peut dire du marché américain sur ce semestre?
Le marché dans son ensemble a légèrement ralenti. On estime la croissance du marché en valeur à 3-4%, alors qu'elle était au-dessus de 4% il y a un an. Et c'est d'ailleurs les tendances de long terme qu'on a constatées dans le passé. Mais dans ce contexte, Pernod Ricard, qui dégage une croissance des ventes de 3%, a une performance qui est quasiment en ligne avec le marché, alors qu'on était légèrement en dessous les années précédentes. Donc, de ce point de vue-là, en relatif, c'est une amélioration. C'est tiré bien évidemment par Jameson qui continue sa très belle croissance à deux chiffres. C'est tiré aussi par nos relais de croissance. Martell, le marché américain, est devenu depuis 3 ans une priorité pour Martell et Martell croît vite, gagne des parts de marché. Également le portefeuille de tequila, premium et super premium avec Altos et Avión, ainsi que les autres marques du portefeuille, Malibu et The Glenlivet. Absolut est toujours en baisse, à peu près 3% en tendance sous-jacente, dans une catégorie vodka qui reste compétitive.
Oui, on avait l'occasion d'en parler de ce redressement de la marque Absolut. Donc le marché reste compliqué aux États-Unis.
Aux États-Unis, le marché de la vodka reste très compétitif. Et dans ce contexte, Absolut, malgré tout, a une performance qui est meilleure que la plupart des autres marques de vodka. Et le lancement d'Absolut Lime a été un grand succès. C'est l'innovation numéro 1 de l'année 2017, selon Nielsen. Bon, je tiens aussi à signaler que Absolut, ce n'est pas que les États-Unis. C'est une marque véritablement globale. Les États-Unis font moins d'un tiers des volumes de la marque. Et en dehors des États-Unis, donc la marque a eu un très beau dynamisme, plus 9%, à peu près dans toutes les régions du monde. Donc ça fait plus que compenser la faiblesse américaine, puisque globalement la marque est à plus 2 au niveau global.
Qu'est-ce qu'il y a derrière la croissance de 3% en Europe? Que reflète-t-elle? Effectivement, les marchés qui vont plutôt bien quand même?
Oui, c'est solide. On est à 1% en Europe de l'Ouest, on est à plus 12% en Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest, on montre une certaine résilience. Il y a deux marchés qui souffrent en ce début d'année, c'est la France et l'Espagne, qui sont tous les deux à moins 4%. Alors, même si on pense que les tendances sous-jacentes sont un peu meilleures, c'est deux marchés qui souffrent. Alors pour des raisons différentes, en France, il y a le déclin de l'anis qui pèse un peu sur notre performance, une météo aussi maussade en été qui a pénalisé nos ventes. En même temps, des marques comme Absolut, Ballantine's, ou Lillet, par exemple, se développent bien en France. En Espagne, c'est un peu différent. Le marché a ralenti. Après 2 ans de fort rebond, après 7 ans de crise, le marché a ralenti et dans ce contexte, notre performance a également ralenti. Donc c'est probablement accentué par un petit peu de déstockage par nos grossistes qui ont été surpris par le ralentissement du marché. Mais pour le reste, l'Allemagne se porte très bien, le Royaume-Uni va très bien, et donc à l'Est, la Russie est à plus 15, la Pologne va bien, et toute une série de plus petits marchés comme le Kazakhstan, l'Ukraine qui rebondit ou la Roumanie contribuent à cette performance d'ensemble. Donc l'Europe est solide et les profits augmentent plus vite que les ventes grâce à un mix favorable et à aussi une grande discipline sur les coûts et les ressources.
Au premier semestre, on peut aussi noter que les investissements, hein, publics promotionnels ont été supérieurs à la croissance du chiffre d'affaires. C'est normal? Ou est-ce que ça va diminuer au second
Il y
semestre?
a un élément de phasage entre les deux semestres. Notre ratio d'investissement marketing sur chiffre d'affaires depuis 6 ans est à peu près stable autour de 19%. Parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus. On se situe toujours dans cette logique-là. Donc pour l'ensemble de l'année, le ratio dépenses marketing sur chiffre d'affaires devrait rester à peu près stable, peut-être en légère augmentation si la belle croissance de nos ventes nous permet de réinvestir un petit peu derrière certaines opportunités.
Alors, vous avez indiqué hein, ce relèvement des prévisions du groupe sur l'ensemble de l'exercice. Vous dites aussi que les effets de change hein, seront plus importants que prévu. Vous évaluez autour de 180 millions d'euros. Donc ça, c'est ce qui s'est passé notamment avec le dollar. Mais je vois aussi que certaines monnaies asiatiques ont pu aussi jouer.
Oui, on a eu un impact défavorable sur le résultat opérationnel de 83 millions d'euros sur le premier semestre. 180 millions d'euros est l'impact réestimé pour l'ensemble de l'année. Nous avions effectivement annoncé en début d'exercice 125 millions d'euros, tout en indiquant qu'ils seraient liés à l'évolution des changes et notamment l'évolution du dollar, puisque nous avons une politique de non-couverture financière systématique. Nous préférons effectivement apporter des réponses business aux fluctuations de change plutôt que des couvertures qui ne durent qu'un temps et qui peuvent être gagnantes ou perdantes. Donc le chiffre de 180 millions d'euros que vous venez d'indiquer, c'est la conséquence directe de l'affaiblissement du dollar ces dernières semaines, puisqu'on avait 1,18 sur le premier semestre, et là on est plutôt autour de 1,23.
Le mot de la fin sur la situation financière et les perspectives de croissance externe. Est-ce que le groupe est à l'affût de ce qui se passe compte tenu de l'évolution des différents marchés?
La croissance externe fait partie de notre stratégie. C'est évidemment un moyen d'améliorer notre profil de croissance. On va continuer à faire ce qu'on a fait les années précédentes, c'est-à-dire une gestion active du portefeuille, tant au niveau des cessions de marques non prioritaires en déclin, que dans le domaine des acquisitions de marques petites, naissantes, premium, à fort potentiel de croissance, comme récemment Monkey 47, Avion, Del Maguey ou Smooth Ambler. Donc nous allons continuer. Les États-Unis, évidemment, sont très hauts sur la liste, hein, compte tenu de l'importance du craft sur ce marché, mais également les marchés émergents, et notamment en Asie. Nous sommes intéressés potentiellement par l'acquisition de marques locales premium en forte croissance qui pourraient compléter notre portefeuille et renforcer aussi ce qu'on appelle notre route to market. Donc le M&A fait clairement partie de nos priorités et notre situation financière qui s'améliore, on a encore désendetté d'un demi-milliard le groupe sur le premier semestre, nous donne les moyens de notre ambition.
Merci Gilles Bogaert.
Merci.